Présence, mercredi cinéma.
Bonjour Louis-Marie Solaire.
Bonjour Jonathan, bonjour à tous.
Alors vous êtes moins pâle que je le pensais, hein. Vous n'avez pas passé votre été au cinéma apparemment.
Ben non, Jonathan non, pas du tout, j'ai pris un peu l'air et le soleil, j'ai élargi mon horizon.
Et vous avez bien raison.
Mais vous n'êtes pas aussi blanc que non plus. Enfin, ce que je veux dire, vous avez des couleurs. J'arrivais pas
restez
à trouver la meilleure, la meilleure
texte,
formule.
Restez dans le texte.
Il me semble que vous êtes parti du côté de la Costa Brava.
Exactement, c'est ça. On va pas parler vacances ce matin sur Radio Présence. Ça nous rappellerait de trop bons souvenirs. On va pas parler de moi ni de vous. On est là pour parler cinéma. Ne l'oubliez pas, Louis-Marie. Ça s'appelle Mercredi Cinéma. Qu'est-ce que vous nous proposez pour votre première chronique de cette saison?
Eh bien, pour se remettre de la rentrée, Jonathan, et avant de filer vers des promesses ciné excitantes, nous allons jeter un petit coup d'œil dans le rétro, je peux pas m'en empêcher, et revenir sur des réalisations qui auraient pu nous échapper. Sorti le 13 juillet, toujours en salle, le film de Dominique Moll, La nuit du 12.
À la PJ, on raconte que chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qui le hante. Elle se met à vous tourner dans la tête jusqu'à l'obsession. Ça vous bouffe de l'intérieur.
Ça vous dévore.
C'est quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes.
Un carton l'annonce dès l'ouverture du film. Environ 20% des enquêtes criminelles menées par la PJ en France restent irrésolues. Où, quand et comment Clara a été tuée, ça, on le sait déjà. Elle a été brûlée vive dans une rue d'une petite ville près de Grenoble, la nuit du 12 octobre. Mais qui a pu commettre ce crime atroce? À cette question, Johan, l'inspecteur de la police judiciaire chargé de l'enquête, n'aura jamais de réponse. On ne dévoile rien en disant que La nuit du 12 est un thriller sans coupable. L'histoire du film est tirée d'un fait divers faisant partie de ces affaires non résolues. On n'a donc pas affaire ici à un polar qui file vers la résolution de l'énigme et la révélation de l'identité de l'assassin. Au fil des interrogatoires de police, tous les amants de passage de Clara pourraient être capables de l'avoir tuée. Mais la recherche du mobile du crime s'avère compliquée et fiévreuse. Pourquoi ? Pourquoi tuer, et de cette manière abominable, une jeune fille bien dans sa peau qui aimait la vie, l'amour ? La question tourne en boucle dans la tête de Johan et lui aussi, chaque soir, tourne en rond avec son vélo sur la piste du vélodrome. Dans ce thriller psychologique au cordeau, Dominique Moll montre avec la précision d'un horloger la mécanique de l'obsession, révélant au passage le fonctionnement constamment bridé de la police et de la justice.
Donc vous parliez de La nuit du 12. Ensuite, Louis-Marie, qu'est-ce que vous avez dans votre besace?
Eh bien, je vous embarque pour un tour à grande vitesse dans le monde des tueurs à gages, mafieux et autres yakuza.
Dear Creek International Business Solutions, que puis-je faire pour vous?
Je suis prêt.
Ah, mais c'est super, Coccinelle.
Coccinelle?
C'est ton nouveau nom de code.
Oh, ok, je vois. Les coccinelles sont censées avoir de la chance.
Tu n'as pas la poisse.
Tu crois? Ma poisse est légendaire. Même quand je veux tuer personne, il y a des morts.
Vous l'avez compris, Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement, les précédentes étant vraiment trop mouvementées. Mais le destin en a décidé autrement, il embarque dans le train le plus rapide du monde, le Bullet Train, aux côtés d'adversaires redoutables qui ont tous un point commun, mais dont les intérêts divergent radicalement. Il va devoir tenter par tous les moyens de descendre du train. Le rythme est effréné autant que burlesque. David Leitch, le réalisateur, n'a rien d'un chef de gare qui se contente de siffler en agitant son drapeau. Il a troqué sa caméra pour un bâton de dynamite aiguillant son train et le spectateur avec lui sur la voie de montagnes russes explosives et sanglantes.
On est loin du documentaire sur la SNCF. Le Bullet Train de David Leitch avec Brad Pitt, c'est sorti début août. C'est encore à l'affiche dans un cinéma près de chez vous. Bon, Louis-Marie, vous avez bien peut-être une nouveauté pour nous quand même, parce que là, pour l'instant, le film, il est sorti.
Oui, mais en voilà un tout nouveau, tout frais,
tout neuf,
qui arrive sur les écrans avec un personnage étonnant qui devrait vous plaire, Jonathan. Le visiteur du futur. À l'origine, héros d'une web-série créée en 2009 par une bande de copains de la banlieue parisienne. Rapidement devenue culte sur Internet, 4 saisons plus tard, elle sera diffusée sur France 4, tandis qu'elle est déclinée en romans et manga. Il faudra tout de même une dizaine d'années à François Descraques, son créateur et réalisateur, pour lui faire passer la porte des salles de cinéma. Je vous vois froncer les yeux, Jonathan, je vous vois bien froncer les yeux et les sourcils surtout. Vous et tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette comédie post-apocalyptique peuvent être rassurés. Personne n'est laissé au bord du chemin. Le fan de la première heure, comme le néophyte, nul besoin d'en connaître les rouages pour en apprécier l'histoire. La voilà l'histoire. 2555, ce qu'il reste de l'humanité, vit dans des sous-sols. La Terre a été dévastée par une catastrophe nucléaire. Une catastrophe plus grande encore est prête à détruire ce qu'il reste du monde vivant. Le visiteur du futur, celui-là même du titre, a le pouvoir d'empêcher l'inéluctable. Doté d'un bracelet à voyager dans le temps, il débarque en 2022, pour empêcher Gilles Alibert, homme politique cynique, de faire construire une centrale nucléaire qui ne respecte pas les nouvelles normes de sécurité. De son côté, Alice, sa fille, préoccupée par l'écologie, cherche elle aussi à l'en dissuader. Entre conflits de génération et thématiques écologiques terriblement d'actualité, le visiteur du futur se situe entre L'armée des 12 singes, le film de Terry Gilliam, et Retour vers le futur, François Descraques.
C'est ça qui a fait le succès du film Retour vers le futur, c'est-à-dire que ça boit de la science-fiction. Ça, le concept de base, c'est « et si tu croisais ton père à l'âge que toi tu as ? Est-ce que ça serait ton pote ou pas ? » Et les gens ont un peu oublié ça. Du coup, ils pensent à Retour vers le futur en disant « Ah, c'est un truc de science-fiction. » Il fait « Ah non, c'est une comédie familiale, en fait. Mmh. » C'est une comédie sur la famille, sur qui sont nos parents et comment ils étaient avant. Donc, même si dans le film « Retour vers le futur », on essaie de s'éloigner un peu de ça, mais le personnage d'Enya, essaie de comprendre son père. Et on a dans le film, justement, une certaine... Sans vouloir spoiler, mais les personnages essaient de comprendre d'où ils viennent et ce qu'ils peuvent devenir.
Le ton du visiteur du futur est bien celui de la comédie. Le film s'appuie sur des anti-héros pas très futés, confrontés à des situations burlesques et même tragicomiques. Le rythme soutenu permet l'alternance de ces moments sans que cela paraisse incongru. François Descraques a su bricoler un univers moins foutraque qu'il n'y paraît et finalement très efficace, donnant au passage une leçon de modestie à tous ces blockbusters qui font dans la surenchère de moyens et d'effets spéciaux. Écologie, bon sentiment et sincérité assumée, voilà les ingrédients d'un grand petit film rafraîchissant et particulièrement attachant.
Eh bien, vous ne perdez pas la main, Louis-Marie Solaire. C'est bien, vous avez... L'été vous a fait du bien, apparemment.
Oui, un peu de vacances.
C'est bien, un meurtre, des assassins et un film post-apocalyptique temporel. On est bien parti cette année-là, c'est bien.
Ah oui, à fond la caisse.
J'ai l'impression qu'on va avoir une belle année avec vous. Merci beaucoup, Louis-Marie Solaire. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.